Jusqu'au week-end du 20 août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau.
Voilà la définition de l'olympisme et du sport telle que pouvait la formuler en 1936 Pierre de Coubertin.
Imprégné de culture hellénique, le français Pierre de Coubertin est l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. Celui qui a introduit le sport à l'école est convaincu de la nécessité de rendre populaire une pratique encore confidentielle en France. C'est pourquoi il organise un congrès international sur l'athlétisme le 23 juin 1894 à Paris, où il réussit à convaincre les 12 pays représentés d'adopter le projet de restauration des Jeux Olympiques, mais aussi de sa symbolique. L'olympisme serait créateur d'un style de vie fondé sur la joie, dans l'effort, sur la valeur éducative du bon exemple et sur le respect des principes éthiques fondamentaux universels afin de pacifier les relations entre les hommes et de préserver la dignité humaine. Quel beau projet humaniste que l'olympisme, interdit de toute considération politique, ce qui n'a pas échappé à notre invité Pascal Boniface, fan des JO mais néanmoins chercheur et directeur de l'IRIS et auteur d'un nouveau livre insolemment intitulé « JO politique ». Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous décidé de vous en prendre au mythe fondateur des Jeux Olympiques, l'événement le plus populaire du monde ?
Oui, c'est un mythe fondateur qui est à la fois sincère et hypocrite, parce que les gens parfois croient à leur propre propagande. Et je pense que Pierre de Coubertin était sincèrement convaincu qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique, alors que lui-même le faisait. Parce que vous venez de dire qu'il voulait pacifier les relations entre individus, mais également entre nations. C'était les deux, enfin l'un va aller avec l'autre. Et si la pacification des relations entre les nations n'est pas un objectif politique particulièrement noble, je ne vois pas qu'est-ce qu'un objectif politique. Et puis, chaque fois, on voit bien, tant qu'il s'agit de la désignation des villes hautes, Rio d'ailleurs était quand même la reconnaissance de l'émergence du Brésil, des BRICS, que la compétition pour le nombre de médailles, ou comme la revendication parfois, comme au jeu de 68, d'une revendication politique, les revendications politiques et géopolitiques ont été constamment mêlées à l'histoire des JO. Et donc j'ai voulu refaire l'histoire des JO pour voir à chaque fois comment la géopolitique et la politique avaient marqué chaque Olympiade.
Alors je le rappelais, la politique c'est le mot interdit dans la charte des JO et les athlètes eux-mêmes sont les premiers concernés depuis les origines des Jeux, Pascal Boniface.
Oui, effectivement, même si finalement, dès le départ, lorsqu'en 1896, Spyridon Louis gagne le marathon, c'est quand même une victoire de la Grèce, une victoire du pays hôte. C'est un berger qui n'avait pas été préparé, le roi va l'embrasser, et tout de suite, la fierté nationale grecque est flattée. Et donc, il y a bien là quelque chose qui s'apparente à montrer le drapeau au soft power dès le départ. Et constamment, on va le voir que des revendications nationales vont s'exprimer à travers les JO. Et après la Première Guerre mondiale, lorsque le mouvement olympique décide d'exclure les vaincus de la guerre des Olympiades, c'est bien là aussi le triomphe de la politique. Alors ce n'est pas dit, ce n'est pas proclamé, c'est murmuré. On le dit pas officiellement, mais quand même il y a l'affirmation du fait que l'Allemagne ne doit pas avoir sur le terrain sportif sa revanche de ses défaites sur le terrain militaire. Donc on voit en fait que dès le départ, il y a des relations gémellaires entre le sport, la politique, entre les JO et la géopolitique.
Donc une dimension hypocrite, selon vous, Pascal Boniface, que de ne pas assumer cette dimension politique des JO, voire de l'interdire, et des interdits bravés courageusement, notamment par John Carlos et Tommy Smith, les deux athlètes noirs américains montés sur le podium aux JO de Mexico en 1968.
Carlos et Smith viennent à la cérémonie protocolaire des remises de médailles recevoir Smith sa médaille d'or, Carlos sa médaille de bronze. Et au moment où l'hymne américain retentit, Smith lève la main droite gantée de noir, ferme son poing. Carlos, lui, lève la main gauche et ne se tient pas au garde à vous. Les deux coureurs américains précisent ensuite qu'ils avaient manifesté de cette sorte pour dire qu'ils étaient solidaires de tous les Noirs du monde.
Are you expecting an African athlete to support?
Yes, I hope so. I would say black is black. And I would say black is black and they're going to have to get together with us and we're going to have to iron our things out so we can face our world problem.
John Carlos, j'insiste sur ces derniers mots, black is black, ce qui est noir est noir. Et il refuse de faire une distinction entre les Noirs des États-Unis et les Noirs de l'Afrique en disant « tous les Noirs du monde sont concernés par ce problème ». Je fais par conséquent un appel à tous les Noirs du monde pour qu'ils prennent conscience de nos problèmes et qu'ils nous aident à les résoudre. John Carlos s'était déclaré particulièrement satisfait que le monde entier ait pu voir sur les écrans de télévision comment ses compatriotes noirs avaient pu réaliser ces deux records du monde fabuleux du 400 mètres et du saut en longueur.
C'est une image iconique de l'histoire du sport retransmise sur la télévision balbutiante, que ces deux poings levés, gantés de noir, une image que vous avez choisie en couverture de votre livre, Pascal Boniface. Alors il faut la décrire et la décrypter pour nos auditeurs.
Oui, c'est effectivement le podium. Il y a un Australien au milieu qui va être solidaire et lui aussi puni d'ailleurs, blanc, qui va être solidaire et lui aussi puni, sanctionné. Donc ces deux athlètes, Carlos et Smith, vont être, on va leur retirer la médaille parce qu'ils ont commis l'impair d'affirmer une revendication politique en plein JO à la remise du podium, qui est l'exemple même de la neutralité. Mais tout ceci n'est pas neutre, bien sûr. D'ailleurs, ils vont être réhabilités, mais longtemps après. Ils ont été considérés comme des parias. Ils ont été au chômage, ils ont été privés de tous les droits. Ils avaient vraiment là trahi une sorte de pacte avec, selon les responsables américains de l'époque du monde sportif, avec le monde sportif. Il faut voir à quelle époque on était. Et c'est aussi pourquoi ils ont été réhabilités à la suite. En 68, les discriminations sont encore extrêmement nombreuses. Elles n'ont bien sûr pas disparu aujourd'hui aux États-Unis, mais elles sont presque réglementées. Johnson s'est à lutter contre cela, mais dans les esprits, il y a encore, dans les années 60, c'est vraiment le sommet de la lutte pour l'affirmation du droit des Noirs.
Johnson, c'est Lyndon Johnson.
Lyndon Johnson, le président américain qui avait fait le buzzing, qui avait lutté contre cela à la grande colère d'une partie de son propre parti politique et d'une grande partie de la société américaine qui n'admettait pas ça. Dans les années 60, il y avait encore des États où les mariages entre noirs et blancs étaient interdits. Barack Obama est né dans un État où il n'aurait pas pu voir ses parents être unis dans d'autres États américains. Et puis, il faut voir qu'à l'époque aussi, le pouvoir sportif est particulièrement réactionnaire. C'est que non seulement il s'agit d'une revendication politique, mais il s'agit d'une revendication politique qui met complètement en cause tous les préjugés de l'époque, aussi bien au niveau international qu'au niveau national américain.
Au fond, qu'ont-ils perdu, mais qu'ont-ils gagné ?
Vraiment, aux yeux du pouvoir américain, aux yeux du pouvoir sportif américain et aux yeux du pouvoir olympique, Smith et Carlos ont commis l'irréparable, mais ils sont rentrés dans l'histoire. Et finalement, la plus belle médaille qu'ils ont eue, c'est d'avoir fait très grandement avancer la cause des Noirs en faisant prendre conscience au monde entier des discriminations existantes et du refus de ces discriminations, d'une lutte. Il y a des gens au sommet de la gloire sportive qui sont prêts, parce qu'ils savaient que ce ceci n'allait pas se passer très bien pour eux par la suite, qui sont prêts à renoncer aux agréments de la carrière. Ils devaient être pris dans des équipes de rugby américain avec donc des salaires très conséquents. Bien sûr, ils ne l'ont pas été. Leur contrat a été cassé. Et donc des gens, des vrais militants qui assument des risques personnels pour faire avancer la cause. Ils sont, comme vous l'avez dit, iconiques parce qu'ils sont vraiment rentrés avec fracas dans l'histoire. Et finalement, cela vaut toutes les médailles d'or du monde parce que on peut dire que dans l'esprit des gens, ils sont toujours médailles d'or et médailles de bronze.
Les Afro-Américains ont interpellé l'opinion publique internationale sur la réalité de la ségrégation aux États-Unis, à Mexico, en 68. Et quelques années plus tard, en 1976, c'est au tour des pays africains de se manifester contre l'apartheid.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de 1976. Célébrons la 21e Olympiade de l'ère moderne.
C'est en français et en anglais, noblesse oblige, que la reine Élisabeth d'Angleterre a donc ouvert les 21e Jeux Olympiques d'été de Montréal en présence de plus de 70 000 spectateurs. Ouverture dans la joie, la liesse même, avec le défilé traditionnel des athlètes. La reine Élisabeth, qui restait debout pendant tout ce défilé, a souri avec fierté et un regret tout de même, un regret, l'absence de 26 pays en majorité africains. Ils ont voulu protester ainsi contre la participation de la Nouvelle-Zélande aux Jeux de Montréal. Il lui reproche à la Nouvelle-Zélande d'avoir envoyé une équipe de rugby en Afrique du Sud, pays où la ségrégation raciale a débouché il y a quelques semaines sur les violentes émeutes que l'on connaît.
Le boycott des JO de Montréal, nous sommes en 1976, Pascal Boniface, c'est donc une dénonciation de l'apartheid en Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud est exclue des JO pour cette même raison déjà depuis 1964. Donc on voudrait mieux comprendre pourquoi ce boycott à ce moment-là.
Il y avait deux types de raisons chez les pays africains. Certains n'étaient pas prêts à envoyer une délégation à Montréal, ils n'avaient pas les capacités à le faire, donc ils ont trouvé ce prétexte. Pour d'autres, c'était plus sincère et plus affirmé. Il fallait vraiment insister pour boycotter l'Afrique du Sud. Et comme la Nouvelle-Zélande avait envoyé une équipe en Afrique du Sud, on a voulu sanctionner la Nouvelle-Zélande. Mais comme le Canada a quand même laissé l'invitation à Nouvelle-Zélande, les pays africains ont fait cela. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'on reproche, et pas toujours à tort, aux dirigeants sportifs d'être plutôt réactionnaires, généralement. Pas toujours à tort. Mais là, en ce qui concerne la lutte contre l'apartheid et également en ce qui concerne la décolonisation, le mouvement olympique a eu un rôle extrêmement important parce que pour les jeunes nations africaines qui venaient d'être indépendantes, avoir une équipe au JO, avoir une délégation qui défile derrière un drapeau où on peut entendre l'hymne. Lorsque Bekele gagne pieds nus le marathon à Rome dans l'ancienne puissance coloniale, c'est extrêmement fort comme image. Pour les jeunes nations qui viennent d'accéder à l'indépendance, le mouvement olympique est un ciment, un ferment de l'identité nationale. Et ces jeunes pays africains vont se servir des Jeux Olympiques pour boycotter l'Afrique du Sud, qui va finalement être exclue du CIO bien avant de l'être des Nations Unies.
Donc en 76, c'est 25 pays africains qui ne participent pas. Vous notez dans votre livre que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, eux, restent, mais qu'en même temps, c'est le premier boycott d'envergure. Dans quelle mesure, à l'époque, cela remet en question l'essence même du mouvement olympique?
Alors, ça le prive de participants. Le mouvement olympique se veut universel. Quand il y a des gens qui ne veulent pas venir, ça l'affaiblit. Et c'est le premier boycott, effectivement, de masse qui va vite tourner court. Il y a encore deux boycotts en 80 et 84. Mais ensuite, plus personne ne voudra boycotter les Jeux olympiques parce que tout le monde veut être de la fête. Et je pense que l'arme du boycott des Jeux olympiques, pas le boycott d'un pays, l'exclure s'il se comporte mal, mais dire « je ne viens pas à cette grande fête », c'est une période passée. Maintenant, plus personne ne prendrait ce risque parce que ce sont les absents qui ont tort.
Et vous l'avez rappelé, la première fois qu'une nation africaine remporte une médaille d'or aux JO, c'est en 1960.
Enfin, dans un décor digne des Jeux de l'Antiquité, l'arrivée d'un marathonien inconnu, un authentique soldat éthiopien aux pieds nus, Abebe, devançant d'une vingtaine de secondes un des grands favoris, le Marocain Radi. Le soldat de marathon mettait ainsi le point final à ces Jeux qu'une grandiose cérémonie au stade olympique a clôturé en apothéose.
Le soldat éthiopien pieds nus n'est autre que le coureur Abebe Bikila. Et ironie de l'histoire, nous sommes à Rome, Pascal Boniface.
Oui, l'ancienne puissance coloniale de l'Éthiopie. Et c'est effectivement une double victoire symbolique et en plus pieds nus. Donc ça veut dire c'est vraiment la force pure sans aucun moyen technique puisqu'il n'a même pas une paire de chaussures pour faire quand même 42 km 195. Et donc effectivement, c'est le triomphe, ça le montre que des nations qui viennent d'accéder à l'indépendance peuvent rayonner, peuvent être compétitives, peuvent même prendre la première place par rapport aux ex-puissances coloniales. Et cette victoire du symbole est extrêmement forte. Et on voit bien là, avec cet exemple, que le sport est un instrument de soft power. C'est un instrument, c'est une façon de pouvoir hisser le drapeau national, de donner un peu de fierté patriotique qui n'est pas agressive parce qu'il n'a bousculé personne, il n'a oxy personne, il n'a... Et au contraire, le vainqueur dans les Jeux Olympiques ne suscite pas le rejet. Il suscite l'admiration et le respect.
D'autant que pour l'Éthiopie, c'est une nation qui n'a quasiment pas été colonisée.
Oui, enfin, il y a quand même les guerres, effectivement, avec italiennes l'Italie. Et la domination italienne avant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, vous consacrez un chapitre absolument passionnant aux JO et à la colonisation, où l'on apprend que Pierre de Coubertin, le fondateur de l'olympisme moderne, avait un projet de colonisation sportive. C'est quoi ?
Alors, Pierre de Coubertin, il est ambivalent. Il est de son époque. Il est de sa classe sociale. C'est un noble de la fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas un altermondialiste. Il est relativement à la fois réactionnaire et progressiste. Progressiste parce qu'il a une vraie vision. Qui aurait pu imaginer, alors qu'on ne le sait pas en France, parce que c'est profondément caché, le pouvoir politique ne l'aide en rien. Personne ne l'aide à Paris. Il est dans le plus grand scepticisme. On se revendique maintenant chaque fois du baron de Coubertin, alors qu'il a dû combattre tous les préjugés des élites politiques françaises qui ne croyaient pas du tout à son projet sportif. Et donc, il a eu cette vision que le sport était un élément central de la vie internationale, que l'on va vérifier à Rio à partir du 5 août et qu'on vérifie chaque jour, en fait.
Mais à l'époque, c'est la Grande France, c'est l'Empire français.
C'est l'Empire. Et en même temps, il a deux raisonnements réactionnaires par rapport aux femmes. Il ne faut pas que les femmes... Il a des remarques sur le fait que... Parce que des femmes qui régent aux Olympiques, non, vraiment, ça ne se fait pas.
Et les Africains.
Et les peuples coloniaux. Pourquoi, dit-il ? Parce que il ne faudrait pas, s'il y avait des jeux communs entre peuples coloniaux et peuples coloniaux, que l'on puisse voir que finalement les colonisés peuvent dépasser les colonisateurs. Et donc il résistait à cela, il voulait faire des jeux à part, mais reconnaissons-lui cependant que pour les Jeux de Saint-Louis en 1908, qui étaient les Jeux de la honte, où il y eut les Américains ont organisé, et peut-être que Smith et Carlos avaient ça en tête, des Jeux indigènes, ou parallèlement aux épreuves sportives, il y avait des Jeux pour les peuples indigènes, qui étaient une sorte d'amusement, vraiment de tout à fait méprisant et raciste, et Pierre de Coubertin s'était élevé contre cela.
Les Jeux de Saint-Louis, c'était dans quel pays ?
Aux États-Unis, en 1908. Hein.
Les JO sont politiques dans la marche du monde et c'est passionnant. Après le premier noir sur le podium autour de la première femme à gagner un marathon, n'en déplaise à Pierre de Coubertin, nous sommes en 1984 à Los Angeles.
L'américaine Joan Benoit, impériale, qui remporte donc ce premier marathon olympique. C'est une victoire qui restera gravée dans les mémoires des quelques 93 000 spectateurs. Une foule conquise, admirative, qui, comme au jeu du cirque romain, encourageait les concurrentes de ce premier marathon olympique féminin de l'histoire des Jeux. Première donc, Joan Benoit, qui a réussi une performance tout à fait exceptionnelle, menant de bout en bout. Une victoire qui, selon elle d'ailleurs, ne pouvait lui échapper. Une cartomancienne juste avant le départ de l'épreuve, lui ayant tout simplement prédit cette médaille d'or. Un exploit d'autant plus stupéfiant d'ailleurs que c'est presque un miracle si la jeune américaine a participé cette nuit à cette épreuve. Elle relevait en effet tout simplement d'une opération d'un genou. Opération, vous l'avez constaté, tentée et apparemment réussie au mois d'avril dernier.
Liberté, égalité, diversité, les combats du sport sont à suivre au son de nos archives dans la marche du monde et avec notre invité, auteur des JO politiques aux éditions Erol, Pascal Boniface.
marche du monde. Valérie Nivelon.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Sacré Pierre de Coubertin, un homme du début du siècle dernier, le XXe siècle, et dans cet empire français raciste et sexiste, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes ne peut imaginer que les Africains ou encore les femmes puissent avoir une place à part entière dans une compétition héritée des Grecs, qu'il qualifiait lui-même d'humaniste et d'apolitique. Alors Pierre de Coubertin est-il un homme de son époque finalement, Pascal
oui,
Boniface?
Oui, complètement, effectivement. Mais bien sûr, c'est toujours anachronique d'écouter quelqu'un 120 ans après. Lorsque Pierre de Coubertin commence son combat pour les Jeux Olympiques au début des années 1890, donc il y a quand même très longtemps, effectivement, c'est un noble donc de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Il a tous les préjugés qui existent à l'époque et qui sont très forts, je dirais, toute classe sociale confondue. Et tout pays confondu. La parité, l'égalité homme-femme, l'égalité entre peuples coloniaux et peuples colonisés, évidemment, n'est pas à l'agenda. Et Pierre de Coubertin reflète cela. Et donc, il a à la fois juste de le rappeler, mais en même temps, il serait injuste de penser qu'il aurait agi de la même façon aujourd'hui. Il est également injuste de ne pas mettre en avant le rôle que le sport a joué pour faire avancer la cause de l'égalité, aussi bien entre hommes et femmes que entre gens de couleurs et d'origines différentes.
Alors effectivement, nous l'avons entendu tout à l'heure, la première femme à gagner un marathon, c'est Joanne Benoit à Los Angeles en 1984. Des JO qui ont également vu la première femme arabe, africaine et musulmane avoir remporté une médaille d'or, c'était Nawal El Moutawakel, pulvérisant au passage le record d'Afrique du 400 mètres. Et c'est grâce au combat des pionnières de la course à pied raconté par le réalisateur Pierre Morat dans son film Free to Run que les femmes ont pu décrocher leur première médaille d'or à Los Angeles. Pascal Boniface et vous, chers auditeurs, je vous emmène au cinéma. Dans la fureur de vivre des années 60, la jeunesse américaine invente le triptyque, musique, drogue et course à pied. Mais les marginaux qui créent les premiers marathons sont comme Pierre de Coubertin, persuadés que la place des filles, c'est plutôt à côté du podium, jusqu'à ce qu'une certaine jeune et blonde Bobby Gibb s'en mêle. Pierre Morat.
Alors Bobby Gibb est un peu la personne oubliée de l'histoire. D'ailleurs, elle le vit assez mal. Elle voue une haine à celle qui a un peu involontairement tirer la couverture à elle, Catherine Switzer. Parce que Bobby Gibb a été finalement la première coureuse, on va dire, à courir. Alors, il y en a eu peut-être dans les siècles passés, etc. Mais à courir sur un marathon, officiellement, entre guillemets, officiellement reconnue, puisque, en fait, finalement, en 1966, elle a tenté de s'inscrire au marathon de Boston. Elle a dit que c'était interdit et dangereux pour les femmes. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est cachée dans un bosquet. Et puis, 2 kilomètres après le départ, elle a rejoint le peloton discrètement. Et 2 kilomètres avant l'arrivée, elle est sortie du peloton pour ne pas franchir la ligne d'arrivée. Donc, c'était une véritable clandestine qui n'avait même pas de dossard. On savait qu'elle était là. Les organisateurs lui ont rien dit parce qu'elle n'avait pas de dossard. Et voilà, fin de l'histoire.
En courant chaque jour, je me sentais plus forte, plus courageuse. J'avais le sentiment d'être capable de tout faire, de conquérir le monde.
L'année suivante, Catherine Switzer, elle, un peu naïvement, parce qu'elle ne veut pas faire de bruit particulièrement, elle s'inscrit avec ses initiales, parce qu'elle a l'habitude, d'après ce qu'elle dit, de le faire quand elle signe ses papiers en tant que jeune journaliste universitaire. Et puis finalement, elle est prise pour un homme. Donc elle a un dossard. Et elle est découverte en pleine course, par l'organisateur et au niveau du bus des médias, qui finalement immortalise le moment où l'organisateur descend, tente de lui arracher son dossard et de l'éjecter de la course. Finalement, elle arrive à s'en sortir grâce à son copain, elle arrive à finir la course, et elle devient finalement l'icône, le symbole du début de cette lutte pour le droit des femmes à participer sur des compétitions ou des courses de plus longue distance. Et finalement, ce symbole est immortalisé par les photos qui sont prises en direct, au moment même, ce jour-là. S'il n'y avait pas eu ces photos, je pense que le rôle de Catherine Fitzer dans l'histoire, peut-être son rôle aurait été important, parce qu'après, elle l'a vraiment pris à cœur, mais peut-être que le côté frappant avec lequel la violence de cet événement a pu être transmise au public, au monde, eh bien, n'aurait peut-être pas eu le même impact.
Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé, dois-je quitter la course? Les journalistes me posaient des questions très agressives. Vous essayez de prouver quoi? Êtes-vous une suffragette, une militante? Et je me disais, je veux juste courir, à quoi ça rime tout ça?
Catherine Fitzer réussit malgré tout à aller jusqu'au bout des 42 km et à finir la course. Mais quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier à son domicile qui lui annonce qu'elle est disqualifiée par les organisateurs du marathon et radiée à vie de la Fédération américaine d'athlétisme.
Ce fut ma première vraie confrontation avec la discrimination. Et cela m'a véritablement ouvert les yeux. Et j'ai réalisé qu'on m'avait toujours incité à être responsable, à terminer ce que j'avais commencé. Et c'était mon devoir désormais d'offrir cette chance à d'autres femmes, de leur faire savoir à quel point courir pouvait être formidable. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais en franchissant la ligne d'arrivée, j'ai su que ce serait le projet de ma vie.
Bobby Gibb et Catherine Switzer ont bravé les interdits et les préjugés jusqu'alors cautionnés par les meilleurs médecins, comme le montre Pierre Mourat dans son documentaire.
Oui, c'est vrai qu'on a, dans le film à un certain moment un médecin, une archive française d'ailleurs, qui dit
Le sport de compétition pour les femmes, ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. C'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon. Il faut que ça soit très bon.
Mais très franchement, c'était un point de vue qui était commun. Pourquoi ? C'est ma propre analyse des choses. Dans les années 60 et au début des années 70, la médecine du sport, elle est totalement balbutiante, elle n'existe pas. Donc, quand les journalistes posent la question à des médecins sur les pratiques sportives, des gens qui incarnent une certaine forme d'autorité, en tout cas d'autorité scientifique, eh bien ces gens-là, pour leur répondre, ne se réfèrent pas à des connaissances scientifiques éprouvées, mais à des croyances. Et les croyances de l'époque, plutôt les fantasmes de l'époque ou les peurs de l'époque, c'est de dire la femme qui est le tabernacle de la maternité, qui est l'expression de la survie et de la transmission de la vie et donc de l'espèce, doit être empêchée de pratiquer, enfin d'une part de sortir du foyer et de pratiquer des activités qui mettraient en danger sa fonction reproductrice. Et c'est pour ça que la course de longue distance est considérée comme dangereuse pour les femmes. On dit qu'elles vont avoir des poils qui poussent sur la poitrine, et on dit qu'il y a un risque que l'utérus se décroche, on dit qu'elles peuvent se transformer en hommes, donc pour commencer à avoir des attributs masculins, on dit que ça peut les pousser vers l'homosexualité, etc., etc. Donc tous ces fantasmes font que les femmes sont interdites de course d'une distance plus grande que 800 mètres, et c'est tout le climat des mentalités de cette époque, et qui bien sûr est l'héritage de toute une histoire du sport qui, pendant très longtemps, emmenée en particulier par le rénovateur des Jeux Olympiques Coubertin, a été profondément anti-femme.
Merci à Pierre Mourat, ancien athlète, historien du sport et réalisateur de Free to Run. Courez absolument voir ce film où l'on voit combien le sport peut être un vecteur d'émancipation qui dérange les hommes.
Oui, d'ailleurs, qu'ont fait les talibans dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en Afghanistan? Que font les groupes djihadistes? C'est d'interdire le sport aussi bien aux femmes qu'aux hommes, d'ailleurs. Et donc, en fait, lorsque l'on dit souvent cette phrase récurrente selon laquelle le sport est l'opium du peuple, c'est l'inverse. Le sport est profondément libérateur. Il donne la liberté à chacun. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une compétition, ça n'empêche pas la contestation. Voir ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Brésil l'an dernier. Dans les travées sous Franco, il n'y a que dans les stades qu'on pouvait contester le pouvoir, parce qu'on ne peut pas contrôler une foule dans le stade alors qu'on peut la contrôler dans la rue. Et une fois encore, les chebabs en Somalie, les talibans en Afghanistan ont interdit le sport aux femmes et aux hommes, parce que le sport, c'est à la fois le loisir et la liberté, l'épanouissement. Ce n'est pas non plus un hasard si le Stade de France était sur la liste d'objectifs des terroristes du 13 novembre.
Le sport peut être aussi un vecteur de propagande extraordinaire. L'histoire l'a montré, notamment à la période du nazisme. Vous citiez Franco tout à l'heure, mais les grands dictateurs européens ont instrumentalisé le sport.
Oui, ils ont tenté de le faire, et tous les pouvoirs tentent de le faire d'une façon ou d'une autre, sauf que pour, contrairement là aussi à une légende solidement établie, pour Hitler, ça a plutôt joué en sa défaveur, parce que qui a gagné les JO? Jesse Owens, 4 médailles d'or. Donc la supériorité de la race aryenne sur les Noirs, elle est diablement mise en question par ce triomphe. Encore plus lorsque Dieter Lutz, le sportif allemand, vient enlacer Jesse Owens pour montrer son amitié, ce qui va rendre complètement furieux Hitler. Et ce que l'on oublie aussi de dire, c'est qu'à l'époque, à son retour, Jesse Owens ne sera pas reçu à la Maison Blanche. Parce que nous sommes en 36, en année électorale, et même pour Roosevelt, démocrate, de gauche, progressiste, un Noir à la Maison Blanche en année électorale, ça ne se fait pas.
Ce n'était pas encore d'actualité. Liberté, égalité, diversité, les combats du sport sont dans la marche du monde en cette année de l'Euro et des JO.
Moi, j'ai mené ma vie finalement très très librement. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a transmis un socle de valeurs, mais finalement, elle m'a laissé être très très libre. Mon combat aujourd'hui, c'est de rien m'interdire. Et c'est aussi ce que j'essaie de transmettre aux gamines. Enfin, n'ayez pas peur. Allez-y.
Parole à une championne de boxe anglaise, Aya Sissoko. En 2006, elle accomplit le triple exploit d'obtenir successivement les titres de championne de France, championne d'Europe, puis championne du monde. Elle se raconte au micro de Théa Olivier.
Alors j'ai commencé la boxe en 1988. J'étais âgée de 8 ans et demi. Mais j'ai commencé par hasard. C'est que j'arrivais à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Ma mère, qui travaillait de nuit, a pris ses informations auprès du professeur de l'école primaire. Et parmi les disciplines proposées, il y avait la boxe. Alors d'emblée, elle a dit tout sauf la boxe, parce que la boxe, elle n'y connaissait strictement rien, et moi non plus. Mais voilà, il y a tout cet imaginaire autour de ce sport, enfin, qui faisait que pour elle, c'était juste insupportable de concevoir que sa fille puisse pratiquer ce sport. Et donc j'avais répondu, si moi je veux la boxe, et elle a fini par me laisser faire. L'acceptation a été beaucoup plus compliquée par rapport aux femmes qui habitaient la même cité que nous. Mes parents sont maliens et sont bambara, c'est-à-dire que quelque part les femmes sont les garantes aussi de la tradition, de la bonne transmission entre guillemets, de ce que doit être une femme, et me voir occuper enfin un espace dédié aux hommes. Pour elle, voilà, ça dépassait un peu l'entendement, en tout cas ce qui est acceptable. Et elle réagissait en disant « Ma mère, mais tu peux pas laisser ta fille pratiquer ce sport, puis de toute façon c'est pas sa place. » Et de toute façon c'est aussi un discours que j'ai entendu beaucoup plus tard, c'est-à-dire que les hommes, on va dire les occidentaux aussi, avaient d'autres manières de le formuler, de manière beaucoup plus lisse, polissée, moins directe. Mais ça revenait exactement à ça. « Mais vous êtes tellement jolie, qu'est-ce que vous recherchez dans la pratique de ce sport ?» Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de leur dire « De toute façon, je ne pratique pas la boxe pour marcher sur vos plates-bandes ou pour vous embêter. C'est juste que j'aime ce sport. »
Allez, 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 allez. Recule, voilà.
Quand j'étais venue voir mon professeur de boxe, avec qui j'ai vraiment une relation, une superbe relation, mais au commencement, il m'a dit « Moi, j'entraîne pas les gonzesses. » Et je lui avais dit, oui, mais moi, je veux la boxe. Donc, il a fini par céder, mais ce n'a pas été évident. Comme il dit, tu m'as convaincue. Mais clairement, il était contre la boxe féminine. En fait, il estimait que ce sport était déjà tellement difficile pour les hommes qu'il ne voulait pas faire subir cette dureté à une femme. Dureté, justement, du sport, de l'engagement, le fait qu'on prenne des coups. Comme il dit, on ne joue pas la pétanque quand on boxe. De toute façon, je voulais être traitée exactement pareil qu'un homme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'ai été très facilement acceptée dans ce club. C'est qu'à partir du moment où je suis arrivée, que je me suis soumise exactement au même effort sans rechigner à la tâche, c'est ce qui a fait que les hommes se sont dit « Ah oui, d'accord, donc finalement, elle est des nôtres. » La pratique a été exactement la même. Je n'ai eu aucun traitement de faveur et de toute façon, je ne l'aurais pas accepté. Enfin, depuis toute petite, de toute façon, j'aspire à ça. C'est-à-dire, je suis autant capable que vous. Je faisais exactement le même effort que les hommes. Alors moi j'ai commencé très vite la compétition en fait. Il s'est avéré que j'avais des aptitudes physiques, que j'étais douée dans la pratique de ce sport. Donc quelques mois après, je me suis déjà retrouvée à disputer les compétitions NSS, donc pour les scolaires. Puis très vite, voilà, tout s'est enchaîné. Je boxais uniquement en compétition contre des femmes. Par contre, je m'entraînais très 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 majoritairement qu'avec des garçons, et encore plus en boxe anglaise puisqu'il n'y avait pas de filles. De toute façon, moi, si j'ai pratiqué la boxe, c'était pas aussi un hasard. C'est que j'étais une enfant pauvre du 20e arrondissement de Paris, de Ménilmontant. Rarement on va voir un gamin, enfin issu de quartier aisé, s'adonner à ce sport. Parce que c'est un sport qui est très très dur, c'est un sport où on prend des coups, et des parents qui ont des moyens préférons inscrire leur enfant dans d'autres disciplines. C'est un sport qui connotait un sport de prolétaire, de pauvre. En fait, le sport pour moi n'est pas un ascenseur social. Le seul ascenseur social pour moi, de toute façon, c'est l'éducation. C'est mentir à un gamin de lui dire qu'il va devenir quelqu'un grâce à son sport. C'est-à-dire qu'il va peut-être accéder à un certain niveau de notoriété, mais en tant qu'individu conscient, il n'y a que l'école qui peut parvenir à ça.
Vous avez intégré Sciences Po, par exemple?
C'était vraiment par hasard, une fois de plus. Et, c'était en 2009-2010, pour la première année. Et donc, oui, Sciences Po ouvrait ses portes, justement, à des sportifs de haut niveau. Donc, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Mais je répète, de toute façon, ne jamais concevoir le sport comme un moyen de se conscientiser. Le sport est un formidable outil. C'est incontestable. Mais l'école avant tout. C'est-à-dire que les gamins pauvres, entre guillemets, ne doivent pas être réduits justement à la pratique sportive pour pouvoir s'en sortir.
Aya Sissoko, dans La Marche du Monde, elle met en garde contre une idée reçue, le sport comme ascenseur social, une pensée iconoclaste. Aya Sissoko est aujourd'hui journaliste et écrivain, elle a fait Sciences Po, un itinéraire absolument extraordinaire au XXIe siècle, une femme boxeuse et championne du monde.
Elle a autant de lucidité que d'intelligence, c'est très frappant comme témoignage, c'est vraiment effectivement extrêmement éclairant. Elle a lutté contre tous les préjugés, aussi bien sportifs que sociaux, et elle les a bousculés, elle les a fait voler en éclats, et en même temps, elle met en garde, mais beaucoup de grands champions qui viennent de milieux populaires, voire extrêmement populaires, mettent en garde en disant, nous on a réussi, mais on est exception. Et je vois tous les gamins qui pensent, ou tous les parents de gamins qui pensent que leur enfant leur apportera la réussite sociale à travers le football, les professionnels qui ont réussi les mettent en garde contre cela. En même temps, s'il ne faut pas que miser sur le sport, eh bien le sport permet des choses que le reste des activités ne permet pas. Pourquoi y a-t-il plus de joueurs dits issus de la diversité titulaires en équipe de France où il n'y a que 11 places qu'à l'Assemblée nationale où il y en a 577? Alors donc on voit bien que dans le sport on prend les meilleurs. Et on ne regarde pas la couleur de peau, la religion, les origines sociales. C'est vraiment très démocratique, le sport. Tout le monde est égal sur la ligne de départ. Ça va dépendre du travail et du talent. Ce n'est pas la même chose en politique ou dans le monde même des médias, du journalisme, de l'édition, où la valeur des réseaux, ou l'héritage social, ou l'environnement social compte beaucoup plus.
À l'Assemblée nationale, c'est encore extrêmement frappant. Je veux dire, il y a extrêmement... Oui. Les bancs de l'Assemblée. Quoi.
Et même, prenez les rédactions, y compris de certains médias qui disent plaider pour la diversité, eux-mêmes, ce n'est pas tout à fait ça, quand on regarde la composition. Donc le sport est une leçon, c'est un tremplin. Il ne faut pas que ça devienne un ghetto. Il ne faut pas que les jeunes noirs ou les jeunes arabes ne peuvent réussir que dans le sport. Ils peuvent le faire dans ce domaine-là. C'est un domaine qui leur est ouvert. Il faut qu'ils conquièrent les autres domaines. Mais donc, il faut utiliser le sport tel qu'il est, comme un vecteur d'épanouissement personnel et social, mais ne pas s'en contenter.
Le sport et l'éducation, nous disait Aya Sissoko, ce que ne démentira pas notre dernier témoin, une star de foot engagée pour l'éducation et contre le racisme. Il se fait rare dans les médias, mais notre reporter Théa Olivier a réussi à le rencontrer, Lilian Thuram.
Super, cette foot, c'est l'ambiance, c'est tout.
Alors, 98, donc on parle de la victoire de la Coupe du Monde. Je pense que ça a été un moment merveilleux. Pourquoi ? Parce que en tant que joueur de foot, vous rêvez de gagner la Coupe du Monde. Et donc, le fait de l'avoir gagné, c'est un rêve d'enfant qui se concrétise. Après... ce que j'ai aimé, c'était l'harmonie qu'il y avait avec le public français. Et après la victoire, le fait que nous sommes tous allés fêter ensemble sur les Champs-Élysées, c'est un moment extrêmement fort pour moi. parce que ça me permet de croire au travail que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller dans les écoles, promouvoir l'égalité et qu'on puisse se reconnaître faisant partie de la même communauté humaine.
Mais comment vous expliquez cette unité justement qu'il y a eu à cette époque ?
Bah, c'est très facile parce qu'on a gagné. si on avait perdu, il n'y aurait eu personne sur les Champs-Élysées.
Je fête la victoire de la France.
La Coupe du Monde.
C'est pas la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Ce monde, toute nationalité mélangée.
Bah là, il n'y a pas de distinction de race, tout le monde est français, tout le monde est heureux, tout le monde est content.
Voilà, tous les milieux se mélangent. C'est une espèce de melting pot qui se met en place et c'est génial.
Vous avez déjà vu ça
Jamais, jamais sur les champs. Et ça va se reproduire parce que c'est sûr, la France va gagner. C'est clair.
France 98, il n'y a pas de différence culturelle dans l'équipe. Non, mais quand vous êtes sportif, vous êtes qui vous êtes. Vous vous posez pas la question à savoir est-ce que vous êtes performant dans ce qu'on vous demande de faire. Mais je pense pas que quand vous êtes sportif de haut niveau, vous vous positionnez en tant que vos origines. Pour vous intégrer dans une équipe, en tout cas. Parce que, encore une fois, derrière la différence culturelle, je pense que les gens voulaient dire que c'était une équipe multicouleur. Lorsqu'on prend un slogan comme « Black, blanc, beurre », vous voyez bien qu'on parle de couleur. On ne parle pas de culture. Et il faut quand même rappeler que, de tout temps, la France est multiculturelle. C'est-à-dire, il y a l'Alsace, il y a la Lorraine, il y a... Mais encore une fois, ce slogan est très intéressant parce que ça nous emmène à nous questionner sur la société française. Est-ce que nous devons attendre la victoire d'une équipe de France de foot pour se regarder différemment, se regarder avec respect et avec envie de faire les choses ensemble? Et je pense que non, il ne faut pas attendre la victoire de l'équipe de France et il faut faire ce travail tous les jours.
Je crois qu'un peuple a besoin à certains moments de se retrouver ensemble.
Jacques Chirac.
Et de se retrouver autour d'une idée qui le rend fier de lui-même. La France, historiquement, a une origine plurielle. Il y a donc un ensemble partagé qui fait peut-être que la France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur.
Mais je pense que nous devons travailler tous ensemble à ne pas tomber dans le piège de l'identité. Il y a des personnes que ça dérange. Bien évidemment, c'est-à-dire c'est pour cela qu'il y a eu cette affaire à la Fédération française où certains voulaient faire des quotas. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi certaines personnes jugent les gens à travers leur couleur de peau, leur religion. Mais ça, c'est historique. Et donc voilà pourquoi il faut éduquer les gens à expliquer qu'être français, ce n'est pas une couleur de peau, une religion. Voilà, c'est une appartenance.
Lilian Thuram sur RFI dans la Marche du Monde pour cette édition consacrée au combat du sport. Des combats menés également à l'occasion des JO. Vous le montrez très bien dans votre livre publié aux éditions Erol, Pascal Boniface. Où vous faites une lecture historique et politique des JO. Mais d'abord une réaction au combat de Lilian Thuram, un athlète que vous connaissez bien.
Oui, enfin bon, tous ceux qui disent que les sportifs n'ont pas de cœur et qu'ils n'ont pas de tête, Lilian Thuram est la meilleure réponse. C'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, d'extrêmement généreux, qui fait d'ailleurs beaucoup d'actions sans en parler. Je trouve qu'il devrait plus parler de ce qu'il fait. Il dit « quand on fait le bien, on n'en parle pas ». Non, il faudrait en parler et c'est quelqu'un qui est profondément investi au service des autres. Vraiment, c'est un exemple pour moi.
Et vous avez eu l'occasion justement d'aller sur le terrain avec Lilian Thuram.
De multiples occasions, il a donné en 2007, à l'été 2007, il jouait à l'époque à Barcelone et juste à la fin de la saison, il a donné ce qu'il a le moins, son temps. Il a passé une semaine, alors que tous les joueurs aspirent à la fin de saison de partir en vacances. Nous avons passé une semaine ensemble pour le compte des Nations Unies dans des camps d'enfants soldats en Afrique de l'Ouest. Et quand je lui ai proposé, il n'a pas hésité un instant. Au contraire, il l'a fait et il multiplie ce type d'action. Et là, il l'avait fait alors qu'il était encore en pleine activité sportive. C'était au cœur de ces deux années passées à Barcelone.
Et aujourd'hui, donc, Lilian Thuram a fondé une fondation pour l'éducation et contre le racisme.
Qui est son occupation unique. Il ne s'est pas reconverti comme entraîneur, consultant, etc. Il se consacre uniquement, effectivement, à sa fondation et à des actions dans les écoles et un peu partout.
Alors, les JO 2016, Pascal Boniface, si Si au contraire de Pierre de Coubertin, nous regardons ces JO comme un événement éminemment politique, quelle est votre analyse pour cette année ?
D'une part, c'était, je me trompe souvent quand je fais les paris sportifs, moins quand je fais les paris géopolitiques. J'avais parié que Rio allait l'emporter malgré la concurrence de Chicago en 2009. Ça a été décidé en 2009. Obama venait d'être élu. Il est venu plaider pour la candidature de Chicago qui était sa ville. Il a néanmoins été battu par Lula parce que le CIO fait de la géopolitique et le CIO a voulu reconnaître l'émergence et puis compenser un peu en donnant les Jeux à un pays émergent démocratique après l'avoir attribué à un autre pays émergent qui l'est moins, la Chine en 2008. Donc ils ont fait une sorte de travail de compensation. Sauf que depuis, bien sûr, ça se passe un peu moins bien au Brésil. Peut-être que le CIO prendrait une autre décision aujourd'hui, que le Brésil tirera moins parti des JO qu'il n'aurait pu le faire, mais en tous les cas, je suis sûr que tout va bien se passer, que tous ceux qui vont se rendre à Rio en mois d'août seront bien accueillis.
Et tous ceux aussi qui regarderont ce spectacle à la télévision, vous en ferez partie ?
Oui, je regarde la télévision, mais j'ai la chance de pouvoir m'y rendre quelques jours à la fin des Jeux.
Vénard. Merci Pascal Boniface. Votre livre géopolitique est aux éditions Erol. A signalé également les Mémoires olympiques de Pierre de Coubertin que vous avez préfacé aux éditions Bartilla. Écrivez-nous, marche.monde@rfi.fr, réagissez sur notre Facebook, podcastez. Cette émission encore et toujours réalisée par Cécile Pompéani, c'est la vôtre.